Vous écoutez, on lit pour vous.
Surdité. Malgré notre bon vouloir, on doit parfois restreindre les services. Un texte de Gabriel Poirier paru le 29 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Le service d'interprétariat de l'Abitibi-Témiscamingue ne compte que 2 interprètes pour personnes sourdes. Il en faudrait 3, peut-être même 4, pour mettre fin aux restrictions occasionnelles de service, prévient la ressource pour personnes handicapées. Le recrutement est difficile pour des raisons financières, mais aussi parce que de tels professionnels se font rares. Il faut les trouver, clame Rémi Mailloux, directeur général de la ressource. Les interprètes qu'on a, on est allé les chercher à Montréal. Ça ne court pas les rues. La ressource gère depuis 1996 le service régional d'interprétariat de l'Abitibi-Témiscamingue, SRIAT. L'organisation offre des services d'interprète en langue des signes aux personnes sourdes et malentendantes de la région, notamment pour leur permettre d'assister à des rendez-vous médicaux ou encore à des réunions professionnelles ou syndicales. On veut les informer comme il faut pour qu'elles soient égales aux autres personnes et qu'elles puissent comprendre l'information à la disposition des entendants, dit Rémi Mailloux. M. Mailloux réclame un financement stable et pérenne du gouvernement du Québec pour corriger la situation. Le financement, actuellement, est au service rendu, explique-t-il. Ça prendrait un financement plus solide, plutôt qu'à la pige. Service essentiel. Mélissa Trudel-Martel, elle-même sourde, confirme l'importance des services d'interprète. À l'emploi du SRIAT, Mme Trudel-Martel s'occupe des services aux membres. C'est autant la personne sourde que les personnes qui la côtoient qui ont besoin du service d'interprétariat. Les professionnels ne connaissent pas le langage des signes. Ils sont eux aussi bloqués dans la communication. Elle donne exemple de l'oncologie et du domaine de la santé, où les services d'interprète sont indispensables. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de procédures. C'est souvent trop difficile en lecture labiale. L'interprète peut jouer son rôle d'intermédiaire, devenir l'oreille de la personne sourde, indique Mélissa Trudel-Martel. C'était surdité. Malgré notre bon vouloir, on doit parfois restreindre les services. Un texte de Gabriel Poirier paru le 29 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Journée internationale des aînés. Aînés et proches aidants, des piliers trop souvent oubliés au cœur de la société québécoise. Un texte de la rédaction paru le 1er octobre 2025 sur le site 20-55.ca. Pour souligner la Journée internationale des aînés, 7 grandes organisations nationales ont uni leur voix à l'Assemblée nationale du Québec afin de rappeler l'apport essentiel des aînés dans la société. Réunis autour d'une motion de la ministre déléguée à la Santé et responsable des aînés, Mme Caroline Proulx, elles ont lancé un appel clair: reconnaître les aînés comme des piliers incontournables de nos communautés. Pour la toute première fois, la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec, l'AREC, la FADOC, Proche Aidance Québec, la QRP, la QDR et Intergénération Québec, se rassemblent derrière un message commun. Ensemble, elles souhaitent déconstruire l'âgisme, mettre en lumière l'engagement des personnes âgées et renforcer leur place dans la vie collective. Les aînés, un rôle vital pour les familles et la société. Sous le thème « Aînés, piliers de nos communautés », les organisations rappellent que les personnes âgées contribuent quotidiennement par leur bénévolat, leur soutien familial, leur rôle dans la transmission des valeurs et leur impact sur les économies locales. Citation. Pour la conférence, le partenariat que nous avons développé cette année est précieux. Plus nous serons nombreux à promouvoir la reconnaissance et la célébration de l'apport des personnes aînées, plus la Journée internationale des aînés aura un impact sur le collectif. Ellipse. Ensemble, accordons la place aux aînés qui leur revient et créons une société où chacun peut vieillir dans la dignité et participer pleinement à la vie collective. » Fin de citation, a souligné Nicole Bolduc-Dubois, présidente de la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec. Un appel intergénérationnel. Pour Intergénération Québec, cette reconnaissance doit aussi passer par le dialogue entre les générations. Citation, « Reconnaître les aînés comme piliers de nos communautés, c'est aussi rappeler l'importance des liens entre toutes les générations. » Ellipse. L'intergénérationnel est un levier puissant contre l'isolement et l'âgisme. Ellipse. Chaque geste qui valorise la contribution des aînés nous rapproche d'un Québec où chacun, peu importe son âge, peut s'épanouir et participer pleinement à la vie collective. Fin de citation, a déclaré Fatima Ladjadj, directrice générale d'Intergénération Québec. Un message porté à l'unisson. De son côté, Yves Bouchard, président de la FADOC, a rappelé que, citation, « La FADOC est heureuse de joindre sa voix à celle des 6 autres organisations pour saluer l'apport inestimable des personnes aînées à la société québécoise, hier, aujourd'hui et demain. Actives et engagées, elles font battre le cœur de nos communautés et offrent un soutien précieux à leurs familles. » Fin de citation. Micheline Germain, présidente de l'AREC, a également insisté sur l'importance d'une mobilisation collective. Citation. « Ce partenariat avec plusieurs grandes associations s'inscrit dans la volonté de l'AREC de déconstruire les stéréotypes liés à l'âge et de célébrer les contributions des personnes aînées. » Ellipse. « Nous encourageons l'ensemble de la population québécoise à s'unir et à participer, chacun à sa façon et à sa mesure, à l'une ou l'autre des nombreuses activités. » Fin de citation. Reconnaître aussi les proches aidants. La proche aidance a également été mise de l'avant. Citation. Au Québec, 66 % des personnes aidées par une personne proche aidante sont âgées de 65 ans et plus, et cette proportion augmentera significativement avec le vieillissement accéléré de la population. Ellipse. Il est absolument essentiel de les reconnaître et de les soutenir adéquatement. Fin de citation, a affirmé Lauriane Estienne, directrice générale de Proche Aidance Québec. Vers une société inclusive. La QRP a rappelé que l'engagement et l'expérience des aînés sont un socle pour l'avenir du Québec. Citation, aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de leur accorder la place qu'elles méritent et de valoriser leur apport inestimable à notre avenir collectif. Fin de citation, a déclaré Paul-René Roy, président de l'AQRP. Enfin, Pierre Lynch, président de l'AQDR, a tenu à rappeler l'urgence d'agir dans un contexte de vieillissement accéléré. Citation, « Les aînés du Québec méritent que toutes nos organisations s'associent en cette Journée internationale des aînés et parlions d'une seule voix pour reconnaître leurs contributions. » Ellipse. C'est toute notre façon de faire et de penser aux aînés qui doit être révolutionnée, alors que nous représenterons bientôt le quart de la population québécoise. Fin de citation. Des activités partout au Québec. Pour marquer cette journée, de nombreuses activités se tiennent à travers la province. Marches, conférences, initiatives citoyennes et événements festifs soulignent l'importance de la participation des aînés à la vie collective. Une carte interactive permet de consulter la programmation complète. À travers cette prise de parole commune et cette mobilisation inédite, les organisations espèrent que le message lancé aujourd'hui résonnera dans toutes les régions du Québec. Elles invitent la population à reconnaître l'apport inestimable des aînés, à déconstruire les préjugés liés à l'âge et à bâtir ensemble une société où chacun, peu importe son âge, peut vieillir dans la dignité et contribuer pleinement à la collectivité. C'était Journée internationale des aînés, aînés et proches aidants, des piliers trop souvent oubliés au cœur de la société québécoise. Un texte de la rédaction, paru le 1er octobre 2025 sur le site 20-55.ca.
Élever un ado atteint d'une maladie incurable. un texte de Stéphanie Marin paru le 24 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada. À 13 ans, Julien Bertrand est un adolescent amateur de jeux vidéo et aimant passer du temps avec ses amis. Mais depuis cet été, il ne peut plus marcher. La dystrophie musculaire de Duchenne est une maladie qui affecte les muscles de Julien depuis un très jeune âge. Avant, il se déplaçait dans la maison. Maintenant, il ne peut plus, souligne sa mère avec émotion. Pour Valérie Brisson, composer avec la maladie de son fils, c'est apprivoiser une foule de deuil. Les muscles de Julien s'atrophient avec le temps, donc il meurt. Ça part des jambes et ça monte, dit-elle. Cette dystrophie est particulière parce qu'elle s'attaque presque exclusivement aux garçons, précise le père de Julien, Jacques Bertrand. Quand on l'a su, on a été 2 semaines comme des zombies. Dernier d'une fratrie de 4 enfants, dont 3 filles le précédent, le petit Julien a semblé présenter très tôt une certaine lenteur sur le plan de la motricité. Il tombait souvent, il n'avait pas d'équilibre, se souvient Valérie Brisson. Tout en se demandant si cette différence pouvait être due au fait qu'il s'agissait d'un garçon, les parents ne s'en sont pas inquiétés outre mesure. À son arrivée à la maternelle, raconte Valérie Brisson, l'enseignante de Julien a toutefois observé chez lui ce qu'elle a vu chez son garçon atteint d'une dystrophie musculaire. Elle a alors dressé une liste des choses que son élève était incapable de faire, encourageant les parents à consulter un médecin. Les résultats de la prise de sang n'ont laissé aucun doute. « Ça a été extrêmement difficile. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, Jacques aussi, parce que c'est une maladie dégénérative incurable. Il n'y a rien qu'on puisse faire, confie-t-elle. Quand on l'a su, on a été 2 semaines comme des zombies. On va voir Julien dépérir avec les années. À un moment donné, il ne pourra même plus bouger ses bras, dit Valérie Brisson. Si la réaction de ses grandes sœurs a été plus intense, Julien, lui, du haut de ses 6 ans, a reçu la nouvelle avec soulagement, heureux de savoir ce qu'il avait et de pouvoir transmettre l'information à ses amis, se remémore sa mère. Un avenir différent. Aujourd'hui, Julien demeure un jeune hypersocial. Avec la poussée de croissance propre à l'adolescence, sa maladie devient plus frappante aux côtés de ses copains plus élancés que lui. Il doit prendre des corticostéroïdes, un médicament qui entraîne toutes sortes d'effets secondaires, en plus de ralentir la croissance et retarder la puberté, explique sa mère. Alors qu'à 19, 17 et 14 ans, leurs aînés font tranquillement leur chemin dans la vie, les parents sont bien conscients des besoins et des défis qui les attendent auprès de leur fils, aujourd'hui âgé de 13 ans. On entrevoit une vie à 3. On se réjouit dans cette tristesse-là qu'il n'y aura peut-être jamais de syndrome du nid vide complètement, dit Jacques Bertrand, père de Julien, en riant. L'espérance de vie pour une personne atteinte de la dystrophie musculaire de Duchenne s'élève à 30 ans, mentionne Valérie Brisson. À la suite du diagnostic de Julien, reçu en 2018, cette dernière a laissé tomber son emploi à la Bibliothèque publique d'Ottawa pour se consacrer à temps plein à sa famille et devenir proche aidante pour son garçon. Et elle ne regrette rien. Le couple souhaite sensibiliser la population à la réalité des familles pour qui la dystrophie musculaire de Duchenne fait partie du quotidien, entre autres par le biais de la campagne « Marcher et rouler » de Dystrophie musculaire Canada. C'était « Élever un ado atteint d'une maladie incurable », un texte de Stéphanie Marin paru le 24 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Rendre les loisirs inclusifs pour les personnes handicapées, un texte d'Ophélie dénommé Marchand, paru le 4 octobre 2025 dans Le Devoir. Des obstacles empêchent des personnes en situation de handicap d'accéder à certaines activités dans l'espace public. Plus d'un Québécois sur 5 vit avec un handicap, selon les statistiques de l'Office des personnes handicapées du Québec. Parmi ces gens, 85 % participent à des activités physiques et près de 70 % ont participé à une activité de plein air dans les 12 derniers mois, selon l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, AQLPH. Ce chiffre tombe à 44 % pour les activités culturelles. Afin de rendre bien visibles les obstacles auxquels ces personnes se heurtent dans l'accessibilité aux loisirs, l'AQLPH a réalisé un docu-reportage mettant en lumière des initiatives concrètes que prennent des organismes sportifs ou culturels afin de rendre leur espace et leur offre accessibles. Le documentaire suit de bout en bout la comédienne et ambassadrice Charlie Rousseau, elle-même en situation de handicap, que l'on voit s'adonner à plusieurs loisirs dans des entreprises québécoises, gym, musée, théâtre, en compagnie d'autres personnes ayant une incapacité. Plusieurs embûches. Geneviève Bergeron, directrice de l'AQLPH, explique que l'intention derrière le film est de permettre aux organisations de faire un pas de plus pour rendre leurs espaces accessibles à tout le monde en montrant que de petits gestes peu coûteux peuvent grandement améliorer les choses. Citation : Les personnes handicapées se heurtent à beaucoup d'obstacles et ça ne s'arrête pas à la mobilité. L'accès à la communication est un frein pour 48 % d'entre elles, notamment en ce qui concerne l'accessibilité visuelle, la clarté, le contraste, les polices de caractère, les sites web trop complexes ou mal conçus. Fin de citation, relate Mme Bergeron, qui cite les données de Statistique Canada. Citation : De plus en plus, l'inclusion est plus naturelle et plus grande qu'avant. Toutefois, même si on fait beaucoup d'efforts pour être visible, les gens ne pensent pas nécessairement à aller voir nos outils. Fin de citation. Charlie Rousseau, qui milite pour la représentation des personnes en situation de handicap, se désole que ces dernières fassent face à beaucoup d'obstacles pour participer aux activités dans l'espace public. Citation : Les gens veulent faire leur part, mais ne savent pas nécessairement comment. L'information est disponible et il faut aller la chercher, il n'y a pas d'excuse. On pense souvent à tort que faciliter l'accessibilité coûte cher. Fin de citation. Charlie Rousseau. Elle rappelle que toute personne est susceptible de devenir handicapée un jour, que ce soit à cause d'un accident, d'une maladie ou du vieillissement. Citation : Même les gens qui ne sont pas handicapés sont d'accord avec nos demandes, quoique les gens soient moins interpellés quand ils ne sont pas handicapés eux-mêmes. Fin de citation, note Mme Rousseau. Citation : Google Maps indique parfois de manière erronée qu'un espace est accessible. Ça fait en sorte qu'une fois, moi et mon ami, on s'est présenté à un restaurant pour rien, car il y avait une marche infranchissable avec un fauteuil roulant. Fin de citation, se désole-t-elle. Ces indicateurs d'accessibilité pouvant être ajoutés sur Google Maps sans vérification, ils sont peu fiables. Petit geste, grande différence. Des mesures adaptées peuvent être mises en place selon le lieu d'accès et le type de handicap. Il existe par exemple des rampes amovibles à faible coût permettant de franchir les marches. Encore faut-il les entretenir. Citation : Des fois, les rampes d'accessibilité ne sont pas déneigées ou déglacées. Fin de citation, fait remarquer Charlie Rousseau, déçu de cet oubli trop fréquent, même de la part de grosses organisations. Elle raconte avoir rencontré cette difficulté, notamment à Igloo Fest, qui s'affichait pourtant comme accessible. Citation : Même s'ils mettent des rampes sur les câbles, celles-ci n'étaient pas déglacées et donc infranchissables. Fin de citation. Si l'accessibilité des personnes en situation de handicap exige de prendre en compte plusieurs paramètres, l'AQLPH est là pour aider les organisations qui le souhaitent à sauter le pas. Citation : L'organisme offre des formations, de la sensibilisation, on peut aussi offrir de l'accompagnement personnalisé, par exemple avec les compagnies de plein air. On a aussi plein d'outils et de guides dans différents domaines en 40 jours. Fin de citation, partage la directrice de l'organisme. Citation : La Maison Théâtre à Montréal a augmenté sa luminosité de 30 % et ça fait toute la différence pour les personnes neurodivergentes. Elle a aussi mis en place des espaces de retour au calme. Fin de citation, souligne Geneviève Bergeron, qui indique que les personnes neurodivergentes et avec des difficultés de la vue ont émis des commentaires très positifs concernant ces changements. La conjoncture économique n'étant pas la meilleure, citation, la possibilité d'accompagnement gratuit pour les personnes handicapées, ça fait toute la différence, fin de citation, indique Charlie Rousseau. Mais les chiffres sont encore trop bas. Les cinémas, stations de ski, ne font souvent pas partie du programme, alors que ce sont des activités assez communes. Fin de citation. Citation, pour le moment, on n'a pas de signaux que nos programmes sont coupés par le gouvernement, mais on n'a pas de signaux qui seront prolongés non plus, et c'est 90 % de notre financement. Dans l'air du temps, c'est difficile économiquement et le climat politique nous inquiète pour l'avenir. On appelle à la vigilance. Fin de citation, conclut la directrice de l'AQLPH, Geneviève Bergeron. C'était « Rendre les loisirs inclusifs pour les personnes handicapées », un texte d'Ophélie dénommé Marchand, paru le 4 octobre 2025 dans Le Devoir.
Noyade, des séquelles neurologiques souvent irréversibles, un texte d'Isabelle Cortez, paru le 1er octobre 2025, sur le site handicap.fr. La noyade n'est pas toujours fatale, mais elle peut causer des handicaps lourds, en particulier chez les enfants. Des experts alertent sur les séquelles neurologiques graves liées au manque d'oxygène lors de ces accidents. Théo, 11 mois. Laurence Le Jalut l'a retrouvé un soir de 2007, flottant dans l'eau de la piscine de leur maison d'alors, à l'étranger. Quelques instants sans le voir, une recherche affolée, je soulève la bâche de la piscine et la vie bascule. Je plonge. Je lui fais des massages cardiaques, du bouche à bouche. Il finit par vomir, raconte-t-elle à l'AFP. Une poupée de chiffon. Après l'arrivée des secours, son cœur s'arrête, puis repart à plusieurs reprises. À l'hôpital, le médecin dit qu'il a très peu de chances de passer la nuit, rembobine-t-elle. L'enfant se réveille le lendemain, mais enchaîne les convulsions. Il va être placé en coma artificiel jusqu'à ce qu'un médicament le stabilise. Quand je l'ai récupéré, c'était une poupée de chiffon. Il ne voyait plus, il était tétraplégique, confie la mère de 3 enfants. Des séquelles souvent graves sur le cerveau. La noyade, définie par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 2005, correspond à une insuffisance respiratoire résultant de la submersion ou de l'immersion en milieu liquide, plus ou moins sévère. Outre le décès, elle peut provoquer des séquelles parfois graves, notamment neurologiques, et avoir un impact potentiellement important sur la qualité de vie et le nombre d'années de vie vécues avec incapacité, note Santé publique France dans une étude inédite publiée le 30 septembre 2025. 1500 à 1700 noyades chaque année. En France, chaque été, surviennent 1500 à 1700 noyades, dont 25 à 35 sont mortelles. Environ 40 des noyés se retrouvent dans un état grave, font très souvent un arrêt respiratoire ou cardiaque, mais beaucoup ne meurent pas, précise à l'AFP le professeur Pierre Michelet, chef de service d'anesthésie-réanimation de l'APHM et coordonnateur de la médecine d'urgence pour Aix-Marseille Université, évoquant une étude à laquelle il a participé publié dans la revue Chest. Des conséquences différentes selon l'âge. Chez les enfants, principalement victimes d'une noyade en piscine privée, la glotte se ferme quand de l'eau pénètre dans les poumons. Ils s'asphyxient et font rapidement un arrêt cardiaque. Chez les adultes, noyés généralement en mer, la glotte ne se ferme pas. Un peu d'eau entre dans les poumons, mais le cœur, par manque d'oxygène, peut s'arrêter. Certains survivent, d'autres pas. Dans une proportion identique, d'autres noyés qui ont inhalé de l'eau et subi une détresse respiratoire grave, bien pris en charge, seront sauvés en quelques heures. Il y a 30 ans, 10 à 15% d'entre eux mourraient. Maintenant, en France, où les secours sont plutôt bien organisés et les protocoles bien faits, c'est quasiment 0,1%, souligne le professeur Michelet. La rapidité est déterminante. La rapidité est cruciale. Si on sort les gens de l'eau environ 56 minutes après la noyade et qu'on les réanime, on a de très bonnes chances de les récupérer. Par exemple, un enfant de moins de 3 ans retrouvé bleu marine dans la piscine, auquel on fait très rapidement du bouche à bouche. Car l'enfant, soit il récupère très bien, soit il a des séquelles majeures, par exemple son cœur repart mais son cerveau reste endommagé, pointe le professeur Michelet. Enfant ou adulte, le cerveau perd très rapidement des neurones en cas d'apport insuffisant d'oxygène. Au-delà de 2 minutes d'anoxie cérébrale, il y a très peu de chances de récupérer la personne sans séquelles neurologiques profondes, expose à l'AFP Axel Lamotte, membre du comité directeur de la Fédération française des maîtres nageurs sauveteurs. Il garde en mémoire un petit de 5 ans récupéré après 5 minutes de noyade, mais resté grabataire. Une deuxième vie après la noyade. Soigné par un neurologue, Théo a suivi une intense rééducation et progressivement retrouvé la vue, le rire quand je le chatouillais et la marche, explique sa mère, qui a écrit « La deuxième vie de mon fils », City Edition. À 18 ans, il a toute sa tête, peut se déplacer, parler, mais pas étudier comme il aurait probablement pu le faire. Ses séquelles ayant compliqué sa scolarité. Sa passion du soccer demeure intacte. C'était « Noyade, des séquelles neurologiques souvent irréversibles », un texte d'Isabelle Cortès, paru le 1er octobre 2025 sur le site handicap.fr.